Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 27, Daf Kaf Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Car le pasouk dans Vaikra Vavdi, de Al Haitzim Ktiv, le pasouk dit sur le bois. Donc il faut placer impérativement les parties du sacrifice sur le bûcher. Kiti Vaelach, quand est-ce que tu te poses une question? Aliba demande à Amar Al Besamour. C'est selon l'avis qui dit que lorsque le pasouk dit tu placeras le galbanum sur les rangées de pain, le pasouk veut dire au sujet de, ou plutôt à côté des rangées de pain. Maï, qu'en est-il? Hachanami, ici aussi, nous interpréterons le pasouk de la même manière. Al, lorsque le pasouk dit « sur le bûcher », en fait, Besamour, le pasouk peut vouloir dire aussi « à côté du bûcher », donc le sacrifice sera valable, Odima, ou bien « Al ha'etzim », lorsque le pasouk dit « sur le bois »,« Dumiyad ala misbeach », ceci est comparé au passage qui dit « tu placeras les membres du sacrifice sur l'autel », Mahatam, de même que là-bas il est évident, « al-mamash », lorsque le pasouk dit « sur », il faut l'appliquer littéralement, on ne peut pas faire brûler les membres du sacrifice à côté de l'autel. Af hachanami, ici aussi, lorsque le pasouk parle de bois ou de bûcher, al mamash, il faut interpréter le terme al sur, littéralement, il faudra donc impérativement placer les parties du sacrifice sur le bûcher. L'agma a conclu, Teku, c'est une question qui reste sans réponse, et Léonavi répondra. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Menachot Daf Kavvav. Nous commençons le shiur de Masechet Menachot Daf Kavzaïn, à la Mishnah, à la cinquième ligne du haut de la page. La Mishnah dit, Hakometz, en ce qui concerne le prélèvement que le Kohen effectue avec la poignée de sa main de l'offrande à base de farine, Mi'uto me'akevet rubo, sa minorité empêche sa majorité d'être valable. Donc s'il manque même une petite partie de ce prélèvement, l'offrande est invalidée. Issaron, en ce qui concerne la quantité d'un issaron, donc un dixième de EFA, réglementaire pour que l'offrande soit valable, ce qui correspond approximativement à 3 kilos de farine. Mi'uto me'akevet rubo, sa minorité empêche sa majorité d'être valable. Donc même s'il manque une petite partie à ce issaron, l'offrande n'est pas valable. Hayayin, en ce qui concerne le vin prescrit pour les libations, mi'uto me'akevet rubo, sa minorité empêche sa majorité d'être valable, donc même s'il manque une petite partie au vin prescrit par la Torah, en fonction des types de sacrifices, ces libations sont invalidées. Hashemen, en ce qui concerne l'huile qui accompagne les offrandes à base de farine, ou celle qui accompagne les offrandes à base de farine qui accompagne les sacrifices, mi'uto me'akevet rubo, sa minorité empêche sa majorité d'être valable, donc même s'il manque une petite partie de l'huile, l'offrande est invalidé. Hasolet vehashemen me'akvin zeetze, la farine et l'huile des offrandes à base de farine empêchent l'un l'autre, c'est-à-dire empêchent l'offrande d'être valable. Autrement dit, lorsque l'offrande est constituée d'huile et de farine, si un des deux constituants de cette offrande manque, l'offrande est invalidée. Hakometz vehalevona me'akvin zeetze, le prélèvement de l'offrande à base de farine et le galbanum qui accompagne l'offrande empêche l'un l'autre, c'est-à-dire empêche l'offrande d'être valable si un des deux composants manque à cette offrande. Alors, la Gemara demande, Maïtama, quelle est la raison? D'où sait-on que même lorsqu'il manque une petite partie des composants de l'offrande, l'offrande est invalidée? La Gemara répond, Amarkra, le pasouk dit dans Vaikra Bet, concernant le prélèvement que le Kohen effectue de l'offrande à base de farine, melokumtso, le Kohen prélèvera sa poignée pleine de cette offrande. Le pasouk dit cela très imné deux fois. C'est une insistance du pasouk pour dire que toute cette quantité est impérative pour que l'offrande soit valable. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, issaron mi'uto me'akevet rubo, en ce qui concerne la quantité réglementaire d'un issaron, un dixième de EFA, pour que l'offrande à base de farine soit valable, même la minorité empêche que la majorité soit valable, donc même s'il manque une petite partie, l'offrande est invalidée. L'Agmara demande Maïtama, pourquoi, d'où le sait-on? L'Agmara répond, Amakra, le pasouk dit, dans Vaikrabet, concernant l'offrande, Misolta, il prélèvera de sa farine. Ce terme, Donc cette précision de Safarin nous enseigne chez Im Chasra Kolshehu que s'il manque même une petite partie à cette quantité d'un Issaron, Psula, l'offrande est invalidée. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Hayayin Miuto Makevet Rubo. En ce qui concerne le vin des libations, même la minorité empêche la majorité d'être valable, donc même s'il manque une petite partie du vin, ce vin offert en libation est invalidé. Et cela car le Passouk dit dans Bamidbar Tedvav concernant les libations, Kacha, ainsi il fera, c'est une assistance du Passouk pour nous enseigner que la quantité prescrite par le Passouk est impérative. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Hashemen miuto me'akevet rubo. En ce qui concerne l'huile prescrite par la Torah pour accompagner les différentes offrandes, la minorité empêche la majorité d'être valable, donc s'il manque même une petite partie, l'offrande est invalidée. La Gemara dit, d'où le sait-on? Alors, de minchat nesachim, s'il s'agit d'huile qui est mélangée avec l'offrande à base de farine qui accompagne les sacrifices, c'est parce que le Passouk dit dans Bamidbar Tedvav Kacha, ainsi il fera. Cette insistance du Passouk nous enseigne que la quantité prescrite par la Torah pour l'huile et les différents composants de cette offrande des libations est impérative pour que ces offrandes soient valables. Uminchat Nedava, et en ce qui concerne les offrandes à base de farine offertes comme cadeau qui n'accompagnent pas de sacrifice, nous l'apprenons parce que Amakra le Passouk dit dans Vaikrabet concernant les offrandes, ou Mishamna et de son huile, donc le Kohen prélèvera de sa farine et de son huile. Cette précision du Passouk nous enseigne que chez Im Chaser Kolshehu, que s'il manque même une petite partie de l'huile, Psula, l'offrande est invalidée. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Hashemen ve'asolet makvin ze'etze. L'huile et la farine s'empêchent mutuellement, c'est-à-dire empêchent l'offrande d'être valable s'il manque un des deux composants de cette offrande. C'est parce que le Passouk dit, d'une part dans Vaikrabet, concernant les offrandes Misolta ou Mishamna, de sa farine et de son huile, puis plus loin, concernant l'offrande d'orge qui est offerte le deuxième jour de Pessah pour permettre la consommation de la nouvelle récolte, le Passouk dit « Migirsa ou Mishamna » de son orge broyée et de son huile. Donc le Passouk répète à deux reprises qu'il faut à la fois de la farine et de l'huile. Cette insistance du Passouk nous enseigne que ces deux composants des offrandes sont impératifs pour que l'offrande soit valable. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Hakometz valvona makvin ze'etze » Le prélèvement de l'offrande à base de farine et le galbanum qui l'accompagne s'empêchent mutuellement, donc ces deux composants sont impératifs pour que l'offrande soit valable. C'est parce que le Passouk dit dans Vaikrabet, d'une part, alcool levonata, il prélèvera donc la farine et l'huile avec tout le galbanum qui l'accompagne. Puis il y a un autre Passouk dans Vaikravav, qui parle toujours concernant les offrandes à base de farine, ve'et kol alvona asher la mincha, et il ramassera tout le galbanum qui se trouve sur l'offrande. Le Passouk répète donc cela à deux reprises pour nous enseigner, pour insister sur le fait que soit le galbanum, soit le prélèvement effectué sur l'offrande à base de farine sont impératifs pour que l'offrande soit valable. En fait, la Gemara rapporte ici le Passouk uniquement concernant le galbanum, car on aurait pu penser que celui-ci est facultatif, mais il est évident que s'il n'y a pas le prélèvement de l'offrande à base de farine, cette offrande est invalidée. Nouvelle Mishnah, Shne Seire Yom Kippourim Me'akvin Ze'etze. Les deux boucs offerts à Yom Kippour, qui font l'objet d'un tirage au sort, dont un des deux est précipité du haut d'une falaise, et l'autre est sacrifié, et son sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire, sont impératifs. C'est-à-dire que s'il manque un des deux, on ne peut offrir aucun de ces deux boucs. Shne Kivse Atzeret Me'akvin Ze'etze. Les deux moutons offerts à l'occasion de Shavuot pour accompagner les deux pains spéciaux qui sont offerts aussi à Shavuot sont impératifs. S'il manque un des deux moutons, on ne peut pas offrir ce sacrifice. Shnei chalot ma'akvot zu et zu, les deux pains spéciaux offerts à l'occasion de Shavuot sont tous les deux impératifs. Donc si on n'a qu'un seul pain, on ne peut pas offrir ce sacrifice. Shnei zdarim ma'akvin ze et ze, les deux rangées de pains spéciaux que l'on met chaque semaine sur la table à l'intérieur du sanctuaire sont impératifs. S'il manque une des deux rangées, on ne peut pas placer de pain sur cette table. שני בזכין מעקבין זה את זה, les deux coupelles de galbanum que l'on place aussi sur la table chaque semaine sont impératifs. S'il manque une des deux coupes, on ne peut pas les placer. Hasdarin ve'abazichin me'akvin ze et ze. Les rangées de pain et les coupes de galbanum sont tous deux impératifs, c'est-à-dire s'il manque un des deux composants de cette offrande, on ne peut pas placer les pains ni le galbanum sur la table. Shnei minim she'benazir. Les deux sortes de pain qui accompagnent les sacrifices de l'abstinent à l'issue de la période d'abstinence qu'il a observée, durant laquelle il n'a pas le droit de se couper les cheveux, ni de boire du vin, ni de se rendre impur par contact avec un cadavre humain. Il s'agit d'un pain non fermenté et d'une sorte de galette. Donc ces deux sortes de pain sont impératifs pour que le sacrifice soit valable. Gimel Shebepara. Les trois sortes de choses qui accompagnent l'offrande de la vache rousse, il s'agit d'un morceau de bois de cèdre, d'un bouquet de hésov et de laine teinte avec une teinture rouge à base de cochenille. Ces trois choses sont précipitées dans le foyer où est brûlée la vache rousse, sont impératifs pour que cette offrande soit valable. Des dalet chez Betroda et les quatre sortes de pain qui accompagnent le sacrifice de remerciement. C'est un sacrifice obligatoire lorsqu'une personne revient de voyage après avoir traversé la mer ou le désert, ou bien lorsqu'il s'est rétabli d'une maladie ou lorsqu'il a été libéré de prison. Il doit offrir un sacrifice accompagné de quatre sortes de pain. Il y a du pain non fermenté, il y a des galettes, il y a une sorte de pain qui a été fabriqué avec de la pâte ébouillantée, puis frite dans l'huile, puis ensuite cuite au four, et puis une sorte de pain fermenté. Ces quatre sortes de pain sont impératifs pour que le sacrifice soit valable. Des arba shebelulav et les quatre sortes qui accompagnent le lulav. Il s'agit donc de la branche de palme, le fruit du cédra, les trois branches de myrte et les deux branches de saule. Ces quatre sortes sont impératifs pour que l'accomplissement de cette mitzvah soit valable. Des arba shebemetzora me'akvin ze et ze et les quatre sortes de choses qui doivent être amenées pour la purification du lépreux. Lorsqu'il est guéri de sa lèpre, il s'agit de deux oiseaux, dont un est égorgé dans un verre d'eau, puis d'une branche de cèdre, d'un bouquet de hésov et de la laine teinte avec une teinture rouge à base de cochenille. Ils sont tous les trois trempés avec le deuxième oiseau dans le verre d'eau qui contient le sang du premier oiseau. Donc ces quatre choses sont impératives pour que la purification du lépreux soit valable. Shiva hazaot shebepara me'akvot zu et zu. Les sept aspersions que le Kohen devait faire en direction du sanctuaire avec le sang de la vache rousse lorsque celle-ci est égorgée sont impératifs pour que ce sacrifice ou cette offrande soit valable. Sheva hazayot she'al ben abadim. Les sept aspersions que le Kohen Gadol devait faire entre les barres de l'Arche Sainte à Yom Kippour, lorsqu'il devait asperger le sang du taureau et du bouc offert en tant que Korban Khatat, Shala Parochet, et aussi les sept aspersions qui étaient effectuées en direction du rideau qui séparait le sanctuaire et le Saint des Saints, lorsque le Kohen aspergeait le sang de ses sacrifices, ou bien lorsqu'il sacrifiait le taureau offert par le public, lorsqu'il a fauté à la suite d'une décision erronée du tribunal suprême, bien lorsque le Kohen Gadol devait offrir un taureau lorsqu'il avait fauté, chez Al-Mizbeach HaZahav, ou bien les sept aspersions qui étaient effectuées en direction de l'autel d'or qui se trouvait dans le sanctuaire lorsque le Kohen Gadol effectuait le service de Yom Kippour. Mais à Kvod Zu et Zu, toutes ces aspersions sont impératives pour que le sacrifice soit valable. La Gemara reprend les différents passages de la Mishnah point par point. Lorsque la Mishnah dit « Shnei Seire Yom HaKippourim Makvin Zeitze », les deux boucs offerts à Yom Kippour sont impératifs pour que le sacrifice soit valable, c'est parce que Chuka, le pasouk dans Vaikra Tetzain concernant le service de Yom Kippour, emploie le terme de Chuka, c'est une loi pour toujours. C'est pour insister que les sacrifices, donc notamment ces deux boucs, sont impératifs pour que le service de Yom Kippour soit valable. Lorsque la Mishnah dit « Shnei Kivse Atzeret Makvin Zeitze », les deux moutons offerts à l'occasion de Shavuot pour accompagner les deux pains spéciaux sont tous deux impératifs pour que le sacrifice soit valable. Havaya, c'est parce que le pasouk dans Vaikra Kav Gimel, dans le paragraphe concernant les deux pains offerts à Shavuot et les deux moutons qui devaient l'accompagner, emploie le terme de Havaya être. En effet, le pasouk dit Solet Tihiena, ces deux pains seront en fleurs de farine. Ce terme de être insiste sur le fait que tous les composants de ce sacrifice sont impératifs pour que celui-ci soit valable, donc notamment les deux moutons qui accompagnent les deux pains. Lorsque la Mishnah dit Shtechalot, les deux pains spéciaux offerts à l'occasion de Shavuot sont impératifs pour que le sacrifice soit valable, Havaya, nous l'apprenons aussi du terme Havaya être que le pasouk emploie dans Vaikra Kav Gimel, comme nous l'avons expliqué précédemment. Shnez Darim, les deux rangées de pains qu'il fallait placer sur la table dans le sanctuaire, ils étaient consommés et remplacés le Shabbat. Ces deux rangées de pains sont impératifs pour que ce sacrifice soit valable. Chouka, nous l'apprenons du terme de chok, employé par le pasouk dans Vaikra Kav Gimel, concernant les pains spéciaux qu'il fallait poser chaque Shabbat sur la table dans le sanctuaire. En effet, le pasouk dit, concernant l'offrande de ces pains, c'est une loi pour toujours. Lorsque la Mishnah dit, Shnei Bazichim, les deux coupelles de galbanum qui accompagnent l'offrande des pains spéciaux et qui étaient posées sur la table dans le sanctuaire chaque semaine, ce galbanum était offert sur l'autel chaque Shabbat. Ces deux coupelles sont impératives pour que le sacrifice soit valable. Chouka, nous l'apprenons du terme de chok, donc c'est une loi pour toujours, employée par le pasouk dans Vaikra Kav Gimel concernant l'offrande des pains et du galbanum qui l'accompagne. Hasdarim va bazichim, lorsque la Mishnah dit que les rangées de pains et les coupelles de galbanum qui l'accompagnent sont tous deux impératifs pour que le sacrifice ou cette offrande soit valable, Chouka, nous l'apprenons toujours du terme de Chouka, c'est une loi pour toujours, que le pasouk emploie dans Vaikra Kavdalet concernant l'offrande des pains spéciaux et du galbanum qui l'accompagne. Lorsque la Mishnah dit Shne Minim Shebenazir, les deux sortes de pains, il s'agit de pains non fermentés et de galettes, offerts par l'abstinent à l'issue de la période d'abstinence qu'il a observée, et donc ces deux sortes de pains accompagnés les sacrifices qu'il devait offrir, sont impératifs pour que le sacrifice soit valable, dit-il, car le pasouk dit dans Bamidbar Vav, concernant les sacrifices qui doivent être offerts à l'issue de l'observance de la période de l'abstinence, Kenya, c'est, etc., c'est ainsi qu'il fera pour la loi de son vœu d'abstinence. Cette insistance du pasouk nous enseigne que tous les composants, donc notamment les deux sortes de pains qui devaient accompagner les sacrifices, sont impératifs pour que les sacrifices soient valables. Gimel Shebepara, les trois sortes de choses qui accompagnent la sacrification de la vache rousse, il s'agit d'une bûche de bois de cèdre, d'une branche de ésov et de l'inde teinte avec de la teinture rouge à base de cochenille. Ces trois choses sont impératives pour que la sacrification soit valable. Chouka, nous l'apprenons du pasouk dans Bamidbar Yutet concernant la sacrification de la vache rousse, qui emploie le terme de chouka, c'est une loi, pour insister sur le fait que tout ce qui est enseigné dans ce paragraphe, donc notamment ces trois choses qui accompagnent la sacrification de la vache rousse, sont impératifs pour que cette offrande soit valable. Arba'a Shebetoda, les quatre sortes de pain qui accompagnent le sacrifice de remerciement. Il s'agit de pain non levé, de galettes. Il s'agit aussi d'une sorte de pain qui est ébouillanté, puis cuit au four, puis frite dans de l'huile. Et une quatrième sorte de pain, il s'agit de pain levé. Donc ces quatre sortes de pain sont impératifs pour que le sacrifice soit valable. Alors Gemara dit, c'est parce que dit kash le nazir, c'est parce que ce sacrifice est comparé au sacrifice offert par l'abstinent par juxtaposition. Dirtiv, car le pasouk dit dans Vaikra Zayin, concernant le sacrifice de remerciement, al zevar todat shlamav, il offrira ses pains sur le sacrifice de remerciement qui est aussi un korban shlamim. Be'amarmar, il a été dit là-dessus, shlamav, le terme de shlamav qui est en plus l'erabot shalmenazir, vient inclure aussi le sacrifice, le korban shlamim offert par l'abstinent. Par cette juxtaposition, nous comparons les lois des pains offerts pour le sacrifice de remerciement aux lois des pains offerts par l'abstinent. De là, d'ailleurs, la Gemara plus loin d'Afaïnchet apprend quelle est la quantité de farine et d'huile nécessaire pour les pains offerts par l'abstinent. Nous apprenons aussi de cette comparaison que de même que les pains offerts par l'abstinent sont impératifs pour que le sacrifice soit valable, les quatre pains qui accompagnent le sacrifice de remerciement sont impératifs pour que le sacrifice de remerciement soit valable. Berba'a Shemetzora et les quatre sortes de choses qui sont offertes pour la purification du lépreux. Il s'agit de deux oiseaux, d'une bûche de bois de cèdre, d'une branche de ézov et de la laine teinte avec une teinture rouge à base de cochenille. Ces quatre choses sont impératifs pour que la purification du lépreux soit valable. Dirtiv, car le pasouk dit dans Vaikra Yuddalet concernant la purification du lépreux, Zot tihye torat ametzora, ceci sera la loi du lépreux. Cette insistance du pasouk nous enseigne que tout ce qui est enseigné dans ce paragraphe, donc notamment ces quatre choses employées pour sa purification, sont impératifs pour que celle-ci ait lieu. Be'arba Shavuolav et les quatre sortes qui sont pris à Sukkot en même temps que le lulav, donc il s'agit d'une branche de palmier, d'un fruit de cédra, le etrog, de trois branches de myrte et de deux branches de sol. Nous apprenons que ces quatre sortes sont impératifs pour que l'accomplissement de ce commandement soit valable. C'est parce que le pasouk dit dans Vaikra Kav Gimel, ou le kartem, vous prendrez donc ces quatre choses, le kichatama, une prise parfaite. C'est-à-dire, le terme ou le kartem peut être séparé en deux, velakar tam, et vous prendrez d'une manière parfaite. Il s'agit donc de l'ekichatama. Nous apprenons qu'il faut prendre parfaitement ce qui est enseigné dans ce pasouk, donc ces quatre choses, pour que l'accomplissement de ce commandement soit valable. Agmar dit là-dessus, Amar Rav Hanan Barava, Loshanu, nous n'enseignons cela qu'il faut impérativement prendre ces quatre choses pour pouvoir accomplir ce commandement, et lâcher Elo uniquement. S'il n'a pas les quatre sortes, dans cette situation, il ne peut pas se contenter de ne prendre que trois de ces sortes, Aval Yeshlo, mais s'il possède les quatre sortes, En Me'akvin, ils ne sont pas impératifs, autrement dit, il n'est pas nécessaire de prendre les quatre sortes ensemble, il peut se contenter de prendre chacune de ces sortes séparément. La Gemara demande, Metive, on a opposé à cela une Braïta, Arba Minim Shebelulav. La Braïta dit, les quatre sortes qui sont pris avec le lulav à Sukkot, shnai mehem osim perot, deux de ces sortes produisent des fruits. Il s'agit du palmier et du cédra, ou shnai mehem en osim perot, et deux de ces sortes ne produisent pas de fruits. Il s'agit du myrte et de la sole. Ha osim perot yuzokukim leshen osim. Les sortes qui produisent les fruits auront besoin des sortes qui ne produisent pas de fruits. Veshen osim perot yuzokukim osim perot. Et ceux qui ne produisent pas de fruits auront besoin de ceux qui produisent des fruits pour que l'accomplissement de ce commandement soit valable. Et une personne ne peut pas se rendre quitte de l'obligation de prendre ces quatre sortes jusqu'à ce qu'ils soient tous les quatre dans un seul bouquet. Autrement dit, ils doivent tous être attachés ensemble pour pouvoir accomplir ce commandement. Il en est de même pour que les Bnei Israël soient agréés, c'est-à-dire pour que leur prière soit exaucée lorsqu'ils jeûnent en cas de détresse. Achiyu kulam baguda achat, leurs prières ne seront pas exaucées jusqu'à ce qu'ils soient tous dans un seul même groupe, c'est-à-dire soit les justes, soit les mécréants doivent prier ensemble pour que leur prière soit exaucée. Chez Nehemar, car le pasouk dit dans Amos Tet, le pasouk parle des qualités d'Akadosh Baruch Hu, le pasouk dit « Habone bam shamaim ma'alotav bagudato al eretz yesada » Celui qui a construit, donc qui a créé dans le ciel ses hauteurs, ce qui veut dire que le ciel qui a été créé dans les hauteurs est en fait constitué de couches successives l'une sur l'autre. Comme nous le savons, il y a sept cieux. Et son groupe, c'est-à-dire le groupe de ses créatures, il les a fondées sur terre. Dans notre contexte, ce passage veut dire comme cela, que lorsqu'il y a un groupe, c'est-à-dire que les hommes sont unis, la terre est fondée, elle se maintient. De là, nous apprenons que seulement si les hommes, donc les Bnei Israël, sont unis, que leur prière est exaucée. En tout cas, nous voyons clairement dans cette braïta que pour accomplir la mitzvah du lulav, il faut impérativement que les quatre sortes soient attachés ensemble dans un même bouquet, contrairement à ce que dit Rav Hanan bar Rava. L'Agma répond, Tanaïhi, il y a une discussion entre des Tanaïm à ce sujet. Détania, car il est enseigné dans une braïta. Loulav, ben agoud, ben she'enu agoud, kasher. Le loulav, soit s'il est attaché avec les autres sortes, soit s'il n'est pas attaché, quand même, il est valable. Donc, on peut accomplir la mitzvah, même si les quatre sortes ne sont pas attachées. Rabbi Yehuda Omer, agoud, kasher, si les sortes sont attachées avec le loulav, donc les branches de myrte et les branches de sol sont attachées avec le loulav, celui-ci est valable. Chez Eno Agoud, mais si les sortes ne sont pas attachées avec le loulav, pasoul, celui-ci n'est pas valable, on ne peut pas accomplir la mitzvah si les sortes ne sont pas attachées avec le loulav. Donc, Rav Hanan bar Rava pense comme le premier auteur de la Braïta. Ragmar demande, Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? D'où sait-il qu'il faut que les sortes soient attachées avec le loulav? L'Agma répond, Gamar kicha kicha me agouda tezov. Nous l'apprenons par le moyen d'une xerashava dont le support est le terme de kicha, employé à la fois concernant le loulav lorsque le pasuk dit dans Vaikra kaf gimel, ou le kartem lachem et vous prendrez, et aussi concernant la botte de Ezov que les béné Israël ont employé pour asperger et appliquer le sang du Korban Pessah en Égypte sur les deux montants et sur le linteau de la porte. En effet, le pasouk dit dans Shemot Yudbet ou le kartem agudat Ezov et vous prendrez une botte ou un bouquet de Ezov. Mal et halan, de même que là-bas pour les branches de Ezov, Be'aguda, il faut qu'ils soient attachés comme le pasouk dit clairement Aguda. Afkan ainsi aussi pour le loulav, Be'aguda, il faudra que les sortes soient attachées dans un même bouquet pour que la mitzvah soit valable. Verabanan, tandis que les chachamim, logamre kicha kicha, n'applique pas cette Xerashava dont le support est le terme de Kicha. Donc selon eux, il n'est pas nécessaire d'attacher les trois sortes pour que le Loulav soit valable. La Gemara demande, Keman Azla Hadetania, selon qui va cette Braïta qui dit comme suit, Loulav, mitzvah le Ogdo. En ce qui concerne le Loulav, il y a une mitzvah, un commandement de l'attacher avec les autres sortes, Veimlo Agdo, mais s'il ne l'a pas attaché avec les autres sortes, Kacher, le loulav, donc le commandement est valable. La Gemara demande que man, selon qui va cette braïta, ik Rabbi Yehuda, si cette braïta suit l'opinion de Rabbi Yehuda, lo agdo amai kasher, s'il ne l'a pas attaché avec les autres sortes, pourquoi est-ce que le loulav est valable? Irabanan, et si cette braïta suit l'opinion des chachamim, mai mitzvah, quel commandement y a-t-il d'attacher le loulav avec les autres sortes, puisque comme nous l'avons vu, selon eux, ce n'est pas nécessaire? L'Agma répond, le Olam, toujours pourrais-je te dire Rabbanan, cette Braïta suit l'opinion des Chachamim. Donc selon eux, ce n'est pas nécessaire d'attacher le Loulav avec les autres sortes. Ou Maï Mitzvah, et quelle est la Mitzvah dont parle la Braïta? Mishum, c'est à cause du Pasuk dans Shemot Tetvav qui dit, Zekeli Vanvehu, ceci est mon Dieu, et je l'embellirai. C'est-à-dire, il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'attacher le Loulav pour que cette Mitzvah soit valable. Cependant, pour embellir la Mitzvah, il est mieux d'attacher le loulav avec les autres sortes, donc avec les branches de myrte et de sol, pour embellir la mitzvah. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Sheva hazaot shebepara me'akvot zuetzu. Les sept aspersions que le Kohen devait faire avec le sang de la vache rousse en direction du sanctuaire sont impératives pour que cette offrande soit valable. La Gemara dit, Chuka, nous l'apprenons du terme de Chuka, c'est une loi que le Pasuk emploie dans Bamidbar Yutet, concernant l'offrande et la sacrification de la vache rousse, pour insister sur le fait que ce qui est enseigné dans ce paragraphe est impératif, donc notamment les sept aspersions que le Kohen faisait en direction du sanctuaire. La Mishnah poursuit en disant « Sheva zaot she'al ben abadim ve'she'al mizbach zahav ve'she'al aparochet me'akvot zuetzu » Les sept aspersions qui étaient effectuées entre les barres de l'Arche Sainte et en direction de l'autel d'or qui se trouvait dans le sanctuaire et en direction du rideau qui séparait le sanctuaire et le Saint des Saints sont impératives pour que les sacrifices dont il s'agit soient valables. La Gemara précise, des Yom Kippour, s'il s'agit des sacrifices que le Kohen Gadol devait offrir à Yom Kippour, il s'agit du taureau offert par le Kohen Gadol et du bouc offert par le public dont le sang était aspergé à la fois entre les barres de l'Arche Sainte et en direction du rideau qui séparait le sanctuaire et le Saint des Saints, et sur l'autel d'or qui se trouvait dans le sanctuaire. Ktiv Chuka, nous l'apprenons parce que le pasouk emploie le terme de Chuka, c'est une loi dans Vaikra Tetzayin concernant le service de Yom Kippour. Pour insister sur le fait que ce qui est enseigné dans ce paragraphe, donc notamment les aspersions décrites par le pasouk, sont impératives pour que les sacrifices de Yom Kippour soient valables. Des par Kohen Mashouar, s'il s'agit des aspersions qui étaient effectuées avec le sang du taureau offert par le Kohen Gadol s'il avait fauté, ou des par Helem Davar Shel Tzibur, ou bien de ceux du taureau offert par le public lorsqu'il a fauté à la suite d'une décision erronée du tribunal suprême, ou de Seiré Avodat Kochavim, ou bien de ceux du bouc offert par le public s'il a commis l'idolâtrie à la suite d'une décision erronée du tribunal. Lorsqu'il s'agit de ce péché, le public devait offrir un bouc en tant que korban khatat et un taureau en tant que korban ola. Pour ces trois types de sacrifices, il y avait sept aspersions en direction du rideau qui séparait le sanctuaire et le saint des saints. Et il y avait aussi des applications de sang sur les quatre coins de l'autel qui se trouvaient à l'intérieur du sanctuaire. Alors d'où savons-nous que toutes ces aspersions sont impératives pour que ce sacrifice soit valable? La Gemara dit que les Tania, comme il est enseigné dans une braïta, qui interprète le pasouk dans Vaikra Dalet, concernant le taureau offert par le public lorsqu'il a fauté à la suite d'une décision erronée du tribunal. Le pasouk dit, après avoir décrit toutes les aspersions qui doivent être effectuées pour l'offrande de ce taureau, ben asa la par, kasher, asa la par, etc. Et il fera pour ce taureau comme il a fait pour le taureau précédent. En effet, dans le paragraphe précédent, le pasouk a décrit les lois du taureau offert par le Kohen Gadol lorsqu'il a fauté. La question se pose, Matalmud Lomar, qu'est-ce que ce pasouk vient nous enseigner, puisque le pasouk décrit tout ce qui doit être fait pour le taureau offert par le public? Donc pourquoi le pasouk répète à nouveau qu'il doit faire la même chose que pour le taureau précédent? La Breita répond, l'Irpol Be'azaot, c'est pour exprimer une répétition concernant les aspersions de sang pour l'offrande de ces taureaux et donc de ces sacrifices.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kavzayin Amud Bet pour nous enseigner chez Im Chiser Achat Mina Matanot, pour nous enseigner que si le Kohen a omis une de ses applications ou de ses aspersions, lo asakloum, il n'a rien fait, ce sacrifice n'est pas valable. Nous noterons que dans la Gemara, dans Maseret Zvachim, Daf Lametet, celle-ci explique longuement comment on apprend les lois concernant tous les sacrifices que nous avons mentionnés de ce pasouk. Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Sheva Hazaot Shebepara, les sept aspersions que le Kohen faisait avec le sang de la vache rousse en direction du sanctuaire, Sheha Sa'an Ben Shelolishman, s'il les a effectués soit au nom d'un autre sacrifice, ben shelo mechuvanot, soit s'il ne les a pas dirigés vers le sanctuaire, psulot, ces aspersions ne sont pas valables. Et cela, car le pasouk dans Bamidbar Yutet concernant la sacrification de la vache rousse emploie l'expression khatati, c'est un korban khatat, pour comparer la vache rousse à un korban khatat, de même que lorsque le korban khatat est sacrifié ou son sang est aspergé au nom d'un autre sacrifice, celui-ci n'est pas valable. Il en est de même pour la vache rousse, donc notamment les aspersions de la vache rousse. Aussi, le pasouk dit clairement, toujours dans Bamidbar Yutet, qu'il faut diriger les aspersions vers le sanctuaire. En effet, le pasouk dit El Nochar Peneo El Moed, vis-à-vis de la face du sanctuaire, donc de l'entrée du sanctuaire. Puis le pasouk emploie le terme de Chuka, c'est une loi, pour insister sur le fait que tout ce qui est enseigné dans ce paragraphe est impératif. C'est pourquoi, si les aspersions ne sont pas dirigées vers le sanctuaire, les aspersions ne sont pas valables. Veshe bifnim, tandis que les aspersions qui sont effectuées à l'intérieur du sanctuaire, comme celle du sacrifice de Yom Kippour, veshe bemetzura, et les sept aspersions que le Kohen devait faire avec l'huile, que le lépreux offrait en même temps que les sacrifices de purification, ces aspersions devaient être aussi dirigées en direction de la porte du sanctuaire. Chez l'Olishman, s'il a fait ses aspersions au nom d'un autre sacrifice, psulot, ces aspersions ne sont pas valables. En effet, pour le korban khatat dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire, puisqu'il s'agit d'un korban khatat, si un des services le concernant, comme l'aspersion du sang, a été effectué au nom d'un autre sacrifice, celui-ci n'est pas valable. Et en ce qui concerne les aspersions de l'huile du lépreux, la Gemara expliquera par la suite qu'en fait, la purification n'est pas accomplie, mais les aspersions sont valables pour permettre le reste de l'huile à la consommation. Shalom Uchubanot, tandis que si ces aspersions n'ont pas été effectuées en direction de la porte du sanctuaire ou du rideau qui sépare le sanctuaire et le Saint des Saints, Ksherot, ces aspersions seront valables. La Gemara demande, Vatania, pourtant il est enseigné dans une braïta, Gabé Para, en ce qui concerne les aspersions du sang de la vache rousse chez l'Olishman Psulot. Si celles-ci ont été effectuées au nom d'un autre sacrifice, les aspersions ne sont pas valables chez l'homme Rouvanot, mais si elles n'ont pas été dirigées en direction de la porte du sanctuaire, Ksherot, elles seront valables. La Gemara répond, Amar Rav Chisda, Lakashia, il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Ha, la première braïta, Rabbi Yehuda suit l'opinion de Rabbi Yehuda que nous verrons par la suite. Ha, tandis que la seconde braïta, Rabbanan, suit l'opinion des Chachamim. Des Tania, car elle est enseignée dans une braïta, Mechusare Kapara, des personnes qui n'ont pas complété leur purification par l'offrande de sacrifice correspondant, chez Nichnesoula Azara qui sont rentrés dans la cour du sanctuaire, Beshogeg, s'ils sont rentrés par inadvertance, Chayav Khatat, celui qui est rentré aura l'obligation d'offrir un korban khatat, Bemezid, s'il l'a fait volontairement, Anush Karet, il sera sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, comme les Chachamim l'apprennent d'un pasouk dans Bamidbar Yutet. Un homme qui est devenu impur, velo yitrata. Ce terme peut être traduit de deux manières, soit s'il n'a pas offert de korban khatat, soit s'il ne s'est pas purifié. Cependant, du fait que le pasouk conclut en disant Menida lozora kalav, l'eau d'aspersion n'a pas été aspergée sur lui, ce qui correspond donc à la purification. Forcément, le terme loitrata veut dire il n'a pas offert les sacrifices correspondants. Le pasouk poursuit en disant, s'il est rentré dans le Beit HaMikdash, il sera sanctionné par une peine de retranchement dans le monde futur. Ve'en tsarich lomar, et il n'est pas nécessaire de dire qu'il en sera de même, tvulyom, si c'est une personne impure, le jour où il s'est purifié dans un bain rituel, donc avant la tombée de la nuit, ou Shar Kolat Meim et tous les autres impurs, que s'ils sont rentrés par inadvertance, ils devront offrir un korban khatat, et s'ils l'ont fait volontairement, ils seront sanctionnés par une peine de retranchement dans le monde futur. Ou Tehorim Shenichnesu Lifnim Mimchitatan, et des personnes pures qui sont rentrées à l'intérieur de la limite qu'ils n'ont pas le droit de franchir. En effet, les Israël ont le droit de circuler librement dans les 11 premières coudées, soit environ 6 mètres et demi, à partir de l'entrée de la cour du sanctuaire, mais ils n'ont pas le droit de dépasser inutilement cette limite, si ce n'est pas dans le cadre de l'offrande d'un sacrifice, par exemple, voire le Mincha Torah. La Echal Kulo, ou bien si une personne pure est rentrée n'importe où dans le sanctuaire, Be'arbaim, il sera condamné à une peine de flagellation, donc de 40 coups. Mi Bet la Parochet, mais s'il a franchi le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, El Pene Akaporet, ou bien s'il s'est mis en face du couvercle de l'Arche Sainte, donc au milieu du Saint des Saints, Bemita, il sera sanctionné à mourir par châtiment divin. Rabbi Yehuda Omer, Kol Hechal Kulo, tout le sanctuaire, ou Mi Bet la Parochet, ou bien même à l'intérieur du rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, Be'arbaim, celui qui rentre inutilement dans cet endroit est sanctionné par une peine de flagellation de 40 coups. Ve'el Pene Akaporet est l'endroit qui se trouve en face du couvercle de l'Arche Sainte, Bemita, est sanctionné par la mort par châtiment divin pour celui qui y rentre inutilement. La Gemara demande, Bemaï Kamiflega, en quoi discutent Rabbi Yehuda et les Chachamim? La Gemara répond, Behaïkra, il discute concernant l'interprétation du pasouk dans Vaïkra Tetzaïn. En effet, le pasouk dit, Vayomer Hashem el Moshe, d'aber el Aaron achicha, Ve'al yavo bechol et el hakodesh mi bet la parochet, el pene hakaporet asher al Aaron, velo yamut. Et Hashem dit à Moshe, dit à Aaron ton frère, qu'il ne vienne pas à n'importe quel moment au sanctuaire, à l'intérieur du rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, vis-à-vis du couvercle qui se trouve sur l'Arche Sainte, et il ne mourra pas. En d'une part, ce pasouk exprime un commandement négatif qui interdit de rentrer n'importe quand dans le sanctuaire, et d'autre part, Il exprime aussi une pénalité, donc de mort par châtiment divin, au moins pour une partie de ces interdictions. Rabbanan Savrei le Chachamim pense, El HaKodesh, vers le sanctuaire Beloyavo, celui-ci est sanctionné par un commandement négatif, donc qui interdit de rentrer n'importe quand dans le sanctuaire. Mibet la parochet, mais à l'intérieur du rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, Vel Pena Kaporet, et en face du couvercle de l'Arche Sainte, Beloyamut, est sanctionné par mort par châtiment divin. Verabuda Savar, tandis que Rabuda pense, El HaKodesh, le sanctuaire où Mibet la parochet est à l'intérieur du rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, Beloyavo, est sanctionné par un commandement négatif qui interdit d'y pénétrer inutilement. Ve'el penea kaporet, l'endroit qui se trouve en face du couvercle de l'Arche Sainte, Beloyamut, est sanctionné par la mort par châtiment divin. La Gemara demande, quelle est la raison de Chachamim? Pourquoi, selon eux, seul le premier endroit mentionné par le Passouk est sanctionné uniquement par un commandement négatif, tandis que les deux autres endroits mentionnés par le Passouk sont sanctionnés par mort par châtiment divin? La Gemara répond, Isal Kadatar Kede Kamar Rabbi Uda, s'il te venait à l'esprit que le Passouk voulait dire comme ce qu'a dit Rabbi Uda, que seul le dernier endroit mentionné par le Passouk est sanctionné par mort par châtiment divin, Lichtov Rachamana El HaKodesh. Le Passouk aurait pu se contenter de mentionner uniquement le sanctuaire Be'el Penea Kaporet et l'endroit qui se trouve en face du couvercle de l'Arche Sainte, Velo Ba'em Mibet La Parochet. Le Passouk n'avait pas besoin de mentionner l'espace qui se trouve derrière le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, Vana Amina, et j'aurais dit de moi-même, Hechal Michayev, si déjà le sanctuaire est sanctionné par un commandement négatif, Mibet La Parochet Mibaya, a-t-on besoin de dire que l'endroit qui se trouve derrière le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, que celui-ci est aussi au moins sanctionné par un commandement négatif, puisque cet endroit est encore plus sacré. Et de plus, pour rentrer derrière le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, il est forcément passé par le sanctuaire, donc de toute façon, il est sanctionné par le commandement négatif, voire la Shittam Kubetset et le Mincha Torah. Mibet HaParochet Degatav Rachamana Lamali. Pourquoi est-ce que la Torah a aussi mentionné l'endroit qui se trouve derrière le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, Shma Mina? Nous pouvons déduire de là qu'en fait, ce que le Passouk voulait dire, Bemita, que cet endroit est aussi sanctionné par la mort, par châtiment divin, même s'il ne s'est pas placé en face du couvercle qui couvre l'Arche Sainte. Verabuda, tandis que Rabuda répond là-dessus, Ikatav Rachamana El HaKodesh, si le Passouk s'était contenté uniquement de mentionner le sanctuaire Velokata Mibet la Parochet, mais n'avait pas mentionné aussi l'endroit qui se trouve derrière le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, Havamina, j'aurais pu penser à dire, Mai Kodesh, que veut dire le terme Kodesh, l'endroit sacré, Mibet la Parochet, il s'agit du Saint des Saints, donc derrière le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, Abal Hechal, mais en ce qui concerne le sanctuaire lui-même, Lav Namilo, il n'y a même pas de commandement négatif qui interdit d'y pénétrer inutilement. Donc finalement, ce passage du Passouk n'est pas en plus, Vera Banan, mais les Chachamim répondent là-dessus, Hahu Lomatit Amart, ceci tu ne peux pas le dire, qu'on aurait pu penser que si le Passouk s'était contenté uniquement de mentionner le terme Kodesh, que le sanctuaire n'est pas inclus. Dehechal Kulo Ikre Kodesh, car tout le sanctuaire est appelé Kodesh. Sheneemar, car le Passouk dit dans Shemot Kavav, Vevdila Haparoch Et Lachem, Ben Hakodesh ou Ben Kodesh Hakodashim. Et le rideau fera pour vous une séparation entre l'endroit saint, sacré, et le Saint des Saints. Donc forcément, le terme de Kodesh s'applique au sanctuaire lui-même. Donc, l'expression Mibet la Parochet qui désigne l'endroit qui se trouve derrière le rideau est en plus pour nous enseigner que cet endroit est aussi sanctionné par la mort, par châtiment divin. La Gemara demande Rabbi Uda Maitama, et quelle est la raison de Rabbi Uda? Pourquoi, selon lui, seul le dernier endroit mentionné par le Passouk est sanctionné par mort, par châtiment divin? Ragma répond, Isal Kadatar Kedekamre Rabanan, s'il te vient à l'esprit que le Passouk voulait dire, comme l'ont dit les Chachamim, que les deux derniers endroits mentionnés par le Passouk sont sanctionnés par mort par châtiment divin. Lichtov Rachamana El HaKodesh Umibet La Parochet, le Passouk aurait pu se contenter de mentionner uniquement le sanctuaire et l'endroit situé derrière le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, Veloba et El Pena Kaporet, et le Passouk n'avait pas besoin de mentionner l'endroit qui se trouve en face du couvercle de l'Arche Sainte. Ben Amina, et j'aurais dit de moi-même, Mibet la Parochet Bemita, si déjà l'endroit qui se trouve derrière le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, même si ce n'est pas en face de l'Arche Sainte. Bemita, cet endroit est sanctionné par mort, par châtiment divin. El Penea Kaporet Mibaya. A-t-on besoin de dire que l'endroit qui se trouve en face du couvercle de l'Arche Sainte est aussi sanctionné par la mort, par châtiment divin? Puisque forcément, pour se placer en face de l'Arche Sainte, il a dû d'abord passer par la partie du Saint des Saints qui n'est pas en face de l'Arche Sainte. Et en plus, si l'endroit en face de l'Arche Sainte est plus sacré, il est évident que celui-ci sera au moins sanctionné de la même manière que le reste du Saint des Saints. El Pene Hakapore de Kata Brahmana Lamali. Pourquoi donc est-ce que le Pasuk a aussi mentionné le fait de se placer en face du couvercle de l'Arche Sainte, Shma Mina? Nous pouvons donc déduire de là, El Penea Kaporet, s'il se place en face du couvercle de l'Arche Sainte, Bemita, il est sanctionné par la peine de mort par châtiment divin, Mibet la Parochet, mais s'il se trouve juste derrière le rideau qui sépare le sanctuaire du Saint des Saints, mais pas en face de l'Arche Sainte, Beazara, il est uniquement sanctionné par un commandement négatif. Verabanan, et les Chachamim répondent là-dessus, il est vrai qu'il n'était pas nécessaire de mentionner le fait de se placer en face de l'Arche Sainte. Et la raison pour laquelle le Pasuk a aussi mentionné celui qui se place en face du couvercle du sanctuaire, cela vient exclure le cas où il rentre dans le Saint des Saints d'une manière détournée. C'est-à-dire s'il ne rentre pas par l'entrée principale, mais plutôt il a pratiqué une ouverture dans un des murs du Saint des Saints, bien même s'il est rentré par l'ouverture principale, mais pas en marchant tout droit, mais plutôt de côté. S'il rentre de cette manière dans le Saint des Saints, il n'a pas transgressé cette interdiction grave, il ne sera pas sanctionné par mort, par châtiment divin. Kedetana d'Abbey Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme il a été enseigné dans une braïta, qui a été enseigné dans le Beit HaMidrash de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lorsque le Pasuk dit dans Vaikra Tet Zayin, concernant le service de Yom Kippour, et le Kohen Gadol aspergera le sang du Korban Khatat El Pene Hakaporet Kedma vers la façade du couvercle de l'Arche Sainte vers l'est, donc vers la façade est du couvercle de l'Arche Sainte, Ze Banaav, cette expression du Pasuk, va permettre d'établir une règle générale qui se généralisera à toute la Torah. Kol Makom Sheneemar Pene, partout où la Torah emploie l'expression de pene, la façade ou la face, et cela en parlant d'un objet ou d'un bâtiment, Eno Ela Pene Kadim, il ne s'agit que de la façade est de l'objet ou du bâtiment dont on parle. Donc, dans notre contexte, pour transgresser cette interdiction de rentrer dans le Saint des Saints pour se placer devant le couvercle de l'Arche Sainte, il faut impérativement se placer en face de la façade est du couvercle de l'Arche Sainte et se diriger vers cette direction et non pas de rentrer d'une manière détournée, donc pas en se dirigeant vers l'est du couvercle du sanctuaire. Vers Rabbi Yehuda, tandis que Rabbi Yehuda répondrait là-dessus, les makra pene, le pasouk aurait pu se contenter d'employer uniquement le terme de pene, la face du couvercle du sanctuaire, pour dire justement qu'il faut se diriger vers l'est du couvercle du sanctuaire comme nous l'avons dit précédemment. Maï el, que veut dire le terme de el en plus? Shma Amina, nous pouvons déduire de là, el davka, ce terme de el est précis et enseigne donc que seul celui qui se dirige et qui se place en face du couvercle de l'Arche Sainte sera sanctionné par mort par châtiment divin, mais celui qui rentre dans le Saint des Saints sans se placer en face de l'Arche Sainte ne sera pas sanctionné par la mort par châtiment divin. Verabanan, tandis que le Chachamim pense, elle, lorsque le Pasuk s'exprime en employant le terme elle, l'avdavka, ce n'est pas pour être précis sur ce terme et pour enseigner donc que c'est uniquement ainsi qu'il transgresse l'interdiction et pas autrement. Et c'est pourquoi, selon eux, comme nous l'avons expliqué précédemment, même celui qui rentre dans le Saint des Saints sera aussi sanctionné par mort, par châtiment divin. Alors, après avoir expliqué cette discussion entre les Chachamim et Rabbi Yehuda, la Gemara revient à la discussion précédente concernant les aspersions du sang de la vache rousse. Rabbi Yehuda d'Amar El Penea Kaporet Davka, Rabbi Yehuda qui pense que l'expression vers la face du couvercle de l'Arche Sainte est un terme précis, comme nous l'avons expliqué précédemment, lorsque le Pasuk dit dans Bamidbar Yotet Vehiza El Nochach, et il aspergera vers le sanctuaire, le pasouk si emploie le terme de El, Davka, c'est un terme précis pour nous enseigner donc que seul si les aspersions sont effectuées ainsi, le sacrifice et donc la sacrification de la vache rousse sera valable. Verabanan, tandis que le Chachamim pense, Mideatam, puisque là-bas, concernant l'interdiction de pénétrer dans le Saint des Saints, l'Avdavka, le terme de El, n'est pas précis, comme nous l'avons expliqué. Hachanami, ici aussi, concernant les aspersions du sang de la vache rousse, l'Avdavka, l'expression vers le sanctuaire, ce n'est pas précis. Donc, même si les aspersions ne sont pas dirigées vers le sanctuaire, celles-ci seront valables. Matkifla, Rav Yosef a objecté là-dessus. Les Rabbi Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, Mide El Davka, si nous voyons que le terme de El est un terme précis, nous lisons selon la note marginale Al Nami Davka, le terme de Al que le Pasuk emploie dans Vaikra Tetzain, concernant les aspersions que le Kohen Gadol effectuait avec le sang du Korban Khatat à l'intérieur du Saint des Saints. En effet, le Pasuk dit Al Penea Kaporet, il aspergera sur la face du couvercle de l'Arche Sainte. Ce terme Al devrait être aussi un terme précis, puisque c'est ainsi, et là de Mikdash Sheni, de Lohavu Aaron Bekaporet, à l'époque du deuxième sanctuaire, où il n'y avait pas d'arche sainte, ni de couvercle d'arche sainte, Hachanami de Lohavid Azaot, est-ce qu'effectivement, il ne pouvait pas effectuer ses aspersions, puisqu'il n'y avait plus de couvercle d'arche sainte, on ne pouvait donc plus accomplir ce que dit le Pasouk, il aspergera sur le couvercle de l'arche sainte, si ce terme et cette expression sont précis. L'Agma répond, Amar Rabba Baroula, Makra le Pasuk dit, toujours dans Vaikra Tetzain, Vechiper et Mikdash Hakodesh, et il expira par le moyen des aspersions le sanctuaire sacré. Cette expression veut forcément parler du Saint des Saints, puisque le Pasuk poursuit en parlant du sanctuaire et de l'autel qui se trouve dans le sanctuaire. Donc cette expression doit être comprise de la manière suivante, Makom Hamekudash le Kodesh, un endroit qui est sacré pour contenir ce qui est sacré, donc l'Arche Sainte. Le Passouk suggère que les aspersions peuvent être effectuées à l'endroit désigné pour y placer l'Arche Sainte, même si l'Arche Sainte ne s'y trouve pas. Forcément donc, dans ce contexte, le terme de Hal ne sera pas précis. Rava Amar, Rava propose une autre réponse à la contradiction précédente concernant les aspersions du sang de la vache rousse. Haveha Rabanan. Ces deux braïtot suivent l'opinion des Chachamim.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.